Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
En tant que photographe, photographe reporter et photographe voyageur, j'ai la chance de faire des rencontres un peu partout sur cette planète. Et j'aime bien donner la parole à ceux qui ont quelque chose à partager avec nous. Ce qui est le cas de Mona. Mona, égyptologue, égyptienne, qui plus que tout aime son pays et sa culture. Dans cette émission Regarde ailleurs, je donne la parole à Mona, qui nous parle un peu de son histoire avant de nous emmener découvrir l'histoire de son pays. Avec moi, Mona. Donc Mona, tu es égyptienne, tu es avec nous sur le bateau en tant que guide, hein, et tu es là pour nous conter l'histoire de ton pays, l'histoire, mais aussi la géographie, la politique, l'économie. Donc tu es là pour partager toutes tes connaissances et tout ton savoir sur l'Égypte, qui pour moi reste un grand mystère. Donc dans cette émission, on va prendre le temps de te rencontrer et parler un petit peu de ton métier de guide et bien sûr poser quelques questions sur l'Égypte. Donc peut-être pour commencer, Mona, comment tu t'es intéressée à la langue française? Parce que là, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer avec toi en français. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu choisisses d'apprendre cette langue et que tu travailles grâce à cette langue?
Alors honnêtement, c'était pas moi qui l'ai choisi, c'était mes parents. Alors, issus d'une famille influencée par la culture française, ils ont décidé de nous mettre, on était plusieurs dans la famille, et donc de nous mettre toutes dans une école de religieuse. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que le français, c'est la langue du protocole. Donc, cela nous a intéressé beaucoup à s'approfondir. Et c'est ce qui a fait que plus tard, j'ai fait des études de langue française, donc lettres françaises. Voilà.
Donc c'est une idée de tes parents qui voulaient que tu apprennes notre langue.
Exactement. En plus, on a eu, honnêtement, ça il faut le reconnaître, on a eu des religieuses qui nous ont enseigné la langue. Et c'est grâce à elles qu'on le pratique, on le parle bien.
Tu avais quel âge et quel souvenir tu as encore de cette époque où tu te retrouves avec des religieuses à apprendre le français dans un pays musulman?
Alors voilà, on avait au préparatoire, non, dès le petit primaire, on avait sœur Bernadette et sœur Geneviève. Et au préparatoire, on avait sœur Lucienne, mais celle-ci, elle était très forte de caractère et puis très autoritaire, mais c'est elle qui nous a le plus enseigné et puis nous a fait pratiquer la langue, donc on le lui doit. Dans une à l'époque, il n'y avait pas cette montée religieuse. Elle a commencé quand on était au préparatoire, et je me rappelle, le port du voile a commencé là. On avait une seule fille dans toute l'école voilée. Et sœur Marie-Paul, la directrice, a essayé de la convaincre de ne pas porter le voile, mais elle était sous l'influence de ses parents. Et puis finalement, elle a décidé, voilà, sœur Marie-Paul a décidé que si elle voulait porter le voile, elle n'avait qu'à le porter hors de l'école, parce que l'école c'était toute une famille et que les professeurs avaient l'âge de ses parents, qu'on était tous respectés, qu'il n'y avait aucun risque à l'école. Et elle a appliqué son point de vue.
On parlera peut-être de la montée de la religion et de ce grand sujet qu'est la religion un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est pas forcément ça qui va m'intéresser là maintenant tout de suite, c'est plutôt toi. Donc tes parents t'envoient dans ce couvent pour pouvoir apprendre la langue française. Donc c'était pas un choix délibéré de ta part, c'était un choix de ta famille. Est-ce que c'était une bonne idée avec du recul aujourd'hui?
Oui, certainement. Ça, je le reconnais beaucoup, je le reconnais. Je suis reconnaissante. Parce que, regardez, c'est grâce à cette langue-ci que j'ai travaillé, que j'ai trouvé un boulot différent du reste du boulot qu'on a, des métiers qui se trouvent. Et puis, c'est une autre culture, et puis ça ouvre d'autres horizons. C'est-à-dire, oui, c'est une richesse. Et cela, je leur dois, c'est vrai.
Thank you.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mona, donc grâce à ce choix de tes parents, tu as pu trouver un métier donc, de guide francophone en Égypte. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'évolution du tourisme? Parce que ça fait maintenant 25 ans hein, que tu travailles dans ce métier-là. En 25 ans, il s'est passé énormément de choses ici en Égypte.
Alors, au départ, il n'y avait pas autant de touristes. Ils étaient peu nombreux. Et puis ça, moi j'ai commencé ma carrière en 89. Alors il y avait peu de bateaux et peu de touristes. Et puis le pays a commencé à développer ce secteur. Même le nombre, ils ont commencé par les guides, beaucoup plus de guides, pas très sélectionnés, parce qu'avant, on sélectionnait, il fallait passer des examens assez difficiles et on ne réussissait pas de la première fois et tout. Et là, c'est devenu plus facile. On a eu un plus grand nombre de guides parce que c'était nécessaire. Ça a demandé. Et puis, d'autre part, le nombre de touristes a beaucoup augmenté. Et c'est resté ainsi jusqu'à la crise du Golfe. À la crise du Golfe, c'était le premier arrêt. Et là, les frères musulmans se sont rendus compte que c'est un secteur très délicat. Alors, à chaque fois qu'ils réclamaient des droits, ils attaquaient ce secteur-ci. Donc, à des moments... le nombre de touristes était inattendu et à d'autres, ça chutait. Et c'est resté ainsi jusqu'en 97. 97, c'était la grande catastrophe de Deir el-Bahari, du temple de la reine Hatshepsut. Et puis, ça a repris. Et je me rappelle qu'en 97, on s'est dit, c'est terminé là, on n'aura plus de touristes et ce secteur va mourir complètement. Et les premiers à retourner étaient les Français. Et c'était 6 mois plus tard. Et puis ça a continué des années bien, d'autres pas, jusqu'à ce que c'est devenu la première ressource de devises étrangères pour le pays. Et des fois, ça dépassait le revenu du canal de Suez. Donc, ça a permis l'évolution de plusieurs villes. Il y a toutes les villes de la Haute-Égypte, donc Louxor, Aswan et ce qu'il y a au milieu. Et puis, ça a permis aussi la construction de nouvelles villes. Toutes les villes de la Mer Rouge sont des villes toutes neuves, nouvelles. C'est-à-dire, elles ont été construites depuis les années 80-90. Donc voilà l'évolution. Une ville comme Hurghada, elle était habitée par très peu de monde. Il y avait un seul hôtel, le Sheraton. Aujourd'hui, c'est une ville importante à ce niveau-là. Et il y a une centaine d'hôtels. C'est une ville qui vit du tourisme. On a Sharm el-Sheikh, pareil. On a Dahab de même. On en construit plein d'autres. Et là, il y a un projet entre l'Ayura. Un projet entre... c'est un projet qu'ils sont en train d'étudier en ce moment entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et là-bas aussi, leur tourisme va évoluer comme Dubaï. Donc oui, c'est un secteur très très important. Et oui, il a évolué. Quand on reçoit des gens qui sont venus dans les années 30-40 qui vous disent qu'il n'y avait aucun bateau sur le Nil, et puis là maintenant on a 250 à 300 bateaux et que le nombre a été limité à ceci, qu'il n'y a pas de construction de nouveaux bateaux et qu'on exploite de l'autre côté du barrage, on construit plein de bateaux de l'autre côté, donc c'est vrai que ça a évolué, voilà.
Tu peux revenir sur la crise de 97 qui a stoppé le tourisme, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors la crise de 97, c'était un groupe suisse-allemand qui visitait le temple d'Hatshepsut et les terroristes, ils étaient 6. Ils ont réussi à passer par... il y a une colline, il y a la montagne qui sépare. Ben, d'un côté de la montagne, on a la vallée des rois, de l'autre côté, on a le temple d'Hatshepsut. Et ceux-ci ont passé la nuit au-dessus de la montagne et tôt le matin, ils sont descendus vers le temple d'Hatshepsut. Et ils ont tué une vingtaine de touristes et le guide avec. Et c'était, c'était catastrophique. Le sang, la salle était toute rouge là où ils étaient, parce que voilà, le nombre était très important. C'était le plus grand nombre de touristes tués en Égypte.
Mais quelles étaient les revendications? Pourquoi?
Les revendications étaient... Alors, eux, ils voulaient des députés à l'Assemblée du Peuple. Ils voulaient l'éducation... ajouter la matière religieuse. Déjà, il y en avait. On a la matière religieuse. La religion est enseignée, mais pour l'arabe. Alors là, ils voulaient rajouter la matière, c'est-à-dire rajouter des versets coraniques importants. Et voilà, c'était ça. Et donc, l'État refusait et ils ont fait cette attaque. Et après, ils se sont suicidés. Donc,
ma question va être très naïve, mais le message de toutes les religions prône l'amour.
Alors, c'est selon l'interprétation, vous voyez. C'est-à-dire, chacun interprète à sa façon. Donc, s'il y a un mouvement de ce genre dans plusieurs pays et il menace, cela veut dire qu'il y a une mauvaise interprétation de la matière même ou des passages. Voilà.
Donc tout serait une question d'interprétation et souvent des malentendus autour de ça. Tu parles aussi d'une montée de la religion. À quoi elle est due? Parce que quand je pense à l'Égypte, avant toute chose, je pense aux Égyptiens, je pense aux pyramides, aux sphinx, aux tombeaux. Et à cette époque-là, on ne parle pas du tout d'islam. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Alors, l'islam, c'est une religion qui existe depuis en Égypte particulièrement, depuis le 7e siècle. D'accord. Et elle est devenue... elle s'est répandue vers le 10e. Mais le Moyen-Orient, en général, ne présentait aucune menace. Puis cette montée religieuse a eu lieu depuis la découverte du pétrole. Ça, c'est à mon avis. Le Moyen-Orient s'est enrichi. Et donc, pour pouvoir garder... Comment dire cela ? Quand les gens sont sous l'influence de la religion, c'est plus facile de les manipuler. Et à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu cette montée religieuse.
Une religion peut complètement contrôler l'esprit d'un peuple?
Alors, la religion musulmane en particulier a ses lois. Souvent, le musulman est entre deux. Soit suivre la loi civile ou la religieuse. Et étant un peuple très pieux, alors là, ils suivent la loi religieuse. Et c'est là le conflit entre les deux. Et c'est pourquoi plusieurs parmi eux sont contre leur État. Parce que c'est la loi civile et ils ne veulent pas appliquer celle-ci. Et généralement, moi, à mon avis, une fois qu'il y a une montée, que ce soit religieuse, d'une idée, idéologie, n'importe quoi, il faut chercher directement le financement vient d'où. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu peux nous parler, nous emmener avec toi, Mona, à cette époque, donc remonter, je crois, 4000 ans, 4500 ans en arrière, ici, au bord du Nil, qu'est-ce qui se passait?
Alors, c'est une civilisation très ancienne, très humaine, pleine de foi, d'amour. Et elle a commencé au bord du Nil parce que c'est stable. Il n'y a pas cette lutte contre la nature. Et la nature a été généreuse vis-à-vis des Égyptiens. Et c'est ce qui a permis d'avoir cette grande civilisation. L'ancien Égyptien ne croyait seulement pas à ses divinités, mais il y avait cette union aussi à la nature. Et sa philosophie qui était issue de là aussi. Donc voilà les bases. Et c'est ce qui a permis d'avoir tout ce qui nous est resté de cette période-ci. Vers les premières dynasties, l'ancien Égyptien a fait de son mieux pour faire des constructions qui résistent, qui font preuve que par là, il y a eu des hommes qui sont passés et qui ont fait l'impossible. Et c'est réel, hein, c'est l'impossible. C'est-à-dire une pyramide qui résiste pour une quarantaine de siècles, même plus, pour aller contre la mort et faire des momifications. Donc c'est vrai, ces gens-ci ont fait l'impossible. La pyramide reste jusqu'à nos jours à une construction parfaite et on se pose toujours les mêmes questions malgré les hypothèses avancées. Comment elle a été construite, comment elle a été faite. Et jusqu'à présent, on a des réponses. Mais elles ne sont pas tout à fait très logiques, puisque les nouvelles découvertes prouvent que non. Ce n'était pas ces hypothèses-ci, ou bien ces méthodes-ci de construction qui ont été suivies. Donc finalement, je prends cet exemple pour dire que ces rois qui ont cherché la perfection, ce peuple qui a participé à cette construction parfaite, donc c'était une union. Et vers ceux qui faisaient cette union, ce qui la rendait très fructueuse ainsi, c'était une religion, mais pas pesante cette fois-ci, mais une religion très pleine d'amour.
Et quand on parle de l'Égypte ancienne, de l'égyptologie, c'est quand même basé beaucoup sur des interprétations ou sur des suppositions. Tu parles des pyramides avec une construction parfaite. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un des plus anciens bâtiments, monuments, construits par l'homme qu'on a retrouvé à la surface de la Terre.
Alors, le plus ancien construit par l'homme, c'est une pyramide, vous avez tout à fait raison, celle de Djéser, qui a été suivie par celle de Snéfrou, et puis finalement la pyramide de Giza. Djéser, c'est la pyramide de Saqqara. Les archéologues ne la considèrent pas pyramide, parce que ce sont des mastabas, ou des constructions carrées superposées. Oui, c'est la plus ancienne construction connue dans l'histoire de l'humanité. C'est tout à fait vrai.
On pense aussi à d'autres endroits comme le Machu Picchu, les Moai sur l'île de Pâques, les temples d'Angkor, des constructions très anciennes qui ont résisté à travers le temps, alors qu'aujourd'hui, la plupart des bâtiments qu'on construit ne passeront pas 10 siècles.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on a réussi à connaître, à savoir toutes les démarches faites par l'humanité pour avancer dans toutes les sciences, on a toujours les mêmes questions, comment ça a été fait. Il n'y a toujours pas de réponse. Et ce n'est uniquement pas aux pyramides. Il y a un autre coin à Saqqara, là où on a une suite de sarcophages. C'est le Sérapium. Et là non plus, on n'a toujours pas de réponse sur la façon dont ça a été creusé, comment ils ont mis les sarcophages à l'intérieur, parce que la largeur d'un sarcophage dépasse largement l'entrée de l'endroit de 3-4 mètres. D'accord. Donc, comment ils ont réussi à mettre une vingtaine de sarcophages à l'intérieur, ça, on n'a toujours pas de réponse. Pour faire déplacer un sarcophage qui pèse une vingtaine de tonnes jusqu'à l'intérieur, là, et puis les passages sont très étroits, et avec tout ce qu'on connaît de nos jours, on n'a même pas réussi à déplacer un des sarcophages plus de 5 ou 10 mètres, pas plus. Donc là, ça reste pareil, sans réponse.
Mais donc si je comprends bien, tu es en train de me dire que la taille du sarcophage est plus grand que le diamètre de l'entrée.
Exactement, oui, oui. Et surtout que là où c'est posé, c'est creusé dans la roche. Donc il n'y a pas possibilité de mettre le sarcophage, ensuite construire. Là, c'est creusé. Donc on n'a pas de réponse.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
En tout cas, dans l'égyptologie, il y a énormément de mystères qui ne sont aujourd'hui pas résolus. Combien de temps ça a duré, cette civilisation? Est-ce que tu peux me parler un peu dans les grandes lignes, le début de cette civilisation et qu'est-ce qui a amorcé son déclin?
Alors, La civilisation a commencé vers le 30e siècle avant Jésus-Christ. Selon certains archéologues, c'est encore plus ancien. De toute façon, l'Égypte existait, nord et sud. Et les premiers pas vers la civilisation avaient commencé à cette période-ci. On a eu des civilisations qui nous ont laissé des cruches, des vases, un mobilier très naïf. Et puis ça s'est développé tout le long de l'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire. Alors à l'Ancien Empire, le but c'était d'aboutir à la pyramide. Parce que la pyramide, c'est un lien entre le ciel et la terre. Ça aide la montée de l'âme vers les cieux. Et le lien entre le ciel, c'est pas le ciel dans le sens là où il y a les nuages, mais le ciel c'est l'univers entier, avec toutes les divinités qui se trouvent aux cieux, et puis toutes les étoiles qui représentent les âmes des défunts. Donc c'est une vraie union entre le ciel et la terre par l'intermédiaire de l'âme du roi défunt. Et puis au Nouvel Empire, cette idée s'est développée, et c'est ce qui a fait qu'on a eu à peu près 108 pyramides en Égypte. Donc il n'y a pas qu'une seule. C'est vrai que tout le monde entend parler des pyramides de Giza, 3 pyramides. Non, 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 elles sont nombreuses, et elles ont été développées au Moyen Empire. Vers le Nouvel Empire, alors là, on a eu l'âge d'or de l'Égypte, le vrai empire, au vrai sens du mot. Donc plusieurs pays sous la domination égyptienne, beaucoup de richesses en Égypte. Et c'est à cette période-ci qu'on a eu les rois que la majorité connaissent bien. Donc on a Toutankhamon, comme vous venez de dire, ce jeune roi qui est mort à l'âge de 19 ans avec une tombe intacte découverte, l'unique intacte découverte à la Vallée des Rois. Et là, c'était le rêve de Carter, et il l'a fait, il l'a obtenu, et on le lui doit, lui et Carnavant. On a Akhenaton avec la révolution religieuse et le monothéisme. On a Ramsès II avec ses 67 ans de règne et plusieurs pays sous la domination de l'Égypte. Et puis Thoutmôsis III, le plus grand guerrier qui n'a jamais perdu de guerre. Bon, donc oui, on a Hatshepsut, l'unique femme du Nouvel Empire, parce qu'elle n'est pas la seule à être montée sur le trône du pays. Il y en a déjà eu d'autres pendant l'Ancien et le Moyen Empire, mais elle était la seule à prendre le pouvoir au Nouvel Empire, à faire une expédition commerciale au pays de Punt. Donc voilà, c'est une variété, c'est très très riche. Et puis ça s'est étendu sur plusieurs siècles, depuis le 30e avant Jésus-Christ jusqu'au 3e, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Et même les Grecs et les Romains, quand ils sont venus là, ils ont eux aussi adopté la religion égyptienne et les coutumes, les habitudes. Et c'est ce qui a fait que, voilà, cette période-ci s'est prolongée un tout petit peu aussi sous les Grecs et les Romains.
Elle a un nom, cette religion ?
Bon, pas vraiment, plutôt la religion égyptienne.
Avec un ou plusieurs dieux ?
Plusieurs. Alors, honnêtement, on cherche à prouver que c'est une religion monothéiste. Mais non, l'ancienne égyptienne n'était pas monothéiste. Et même Akhenaton, qu'on juge monothéiste, son dieu, lui, il l'avait pas créé. C'était un dieu secondaire qui existait déjà. Et je ne sais pas pour quelle bonne raison on a peur de dire qu'ils étaient polythéistes, c'est ça ? Mais ils l'étaient.
Peut-être parce que l'islam reste une religion monothéiste, hein, et donc c'est compliqué de remettre en question.
Exactement, c'est seulement pas l'islam, mais regardez la civilisation égyptienne, l'égyptologie plutôt, c'est une science toute neuve, d'accord ? Quand vous parlez de médecine, quand vous parlez de physique, de chimie, ce sont des sciences qui ont été connues depuis des siècles et des siècles. Tandis que l'égyptologie, c'est depuis Champollion, d'accord ? Donc ça fait quoi, un siècle et demi ? C'est tout neuf, et on est en manque terrible de documents, on n'a rien. On a ce qui existe sur les parois, et c'est peu par rapport à une civilisation qui a duré pendant 27 siècles. Et leur connaissance était sur des papyrus. Beaucoup, une bonne partie de ces papyrus ont disparu. On a perdu ce que nous a écrit Hérodote. Et une ville comme Memphis, qui se trouvait dans le nord, était aussi grande que l'actuel Louxor. Tout ce qui nous est resté, c'est deux statues. Donc on connaît que le minimum du minimum de cette civilisation.
Mona, tu nous as emmenés dans la Vallée des Rois à la découverte de différents tombeaux. Donc quand on rentre dans un tombeau, on rentre dans la terre, hein. On descend dans un escalier, on est fasciné par ce qu'on voit autour de soi, on est surpris par le côté intact des hiéroglyphes, des dessins qu'on va voir, c'est complètement incroyable, on va s'enfoncer comme ça vraiment dans la terre, on va descendre pour arriver après plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, dans une grande salle qui souvent renferme un tombeau. Tout ce qu'on voit sur ces murs, ce qu'aujourd'hui on comprend, ce qu'on sait, le décrypter, ce qu'on sait, ce que ça représente. On voit des dessins, on voit des hiéroglyphes, on voit plein de choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte, ces histoires-là?
Bon, alors, pour les tombeaux, oui, voilà, c'est creusé dans la roche et ils ont fait exprès ainsi pour les protéger, pour les garder loin de la main des pilleurs. Ce qui les a protégés, c'est la sécheresse. Et la majorité des tombeaux étaient ensablés. Et le sable, c'est comme si on gardait sous vide. Heureusement qu'on a le sable, que voilà, c'est dans un coin désertique, c'est ce qui a protégé. Et vous avez vu les couleurs intactes, on dirait que ça vient d'être peint il y a quelques jours. Et c'est donc grâce à ces deux éléments-là. Quant aux parois, alors généralement, oui, tout est presque, je vais dire peut-être à 85% déchiffré. Oui. Il y a des choses, il y a des études qui sont encore faites. Il y a beaucoup d'égyptologues qui travaillent là-dessus chez vous en France. Les Français sont passionnés par l'égyptologie et beaucoup de Français font des travaux, des études à propos. Il y a des Égyptiens, il y a les Allemands, il y a les Américains. Mais encore, c'est les Français qui ont le dessus. Alors oui, pour les tombeaux, on a... En premier, généralement, c'est les litanies du soleil. Litanies du soleil, ce sont des prières que fait le défunt au nom du soleil auquel il va s'identifier pour faire sa traversée vers l'au-delà. Donc en s'identifiant au soleil, le défunt pourrait faire la traversée du monde infernal, là où il risquait des obstacles, il risquait de ne pas arriver à la résurrection. Donc ils commencent par les prières au dieu Ra, au dieu soleil, qui l'aidera à faire cette traversée-ci. Et puis on a des passages du livre des morts, de l'Imdouat, du livre des portes, qui décrit cette traversée-ci. Cette traversée était pleine d'obstacles, de risques, de mauvais esprits, de portes devant lesquelles ils se mettaient. Ces portes-ci étaient souvent protégées par des génies célestes et il fallait qu'ils se rappellent de certains passages religieux, magiques, pour que les portes s'ouvrent et qu'ils puissent continuer sa traversée. À des moments, ils traversaient Saqqara. Saqqara, c'est un endroit désertique. Donc, il avait besoin de la protection du dieu Sokaris.
Mona, toi tu es guide, mais aussi prof de français, égyptienne, intéressée par l'histoire et la culture de ton pays. Quel regard tu portes sur cette époque-là? C'est quand même incroyable d'habiter en Égypte et de se rendre compte qu'il y a eu cette civilisation. Enfin, quel est le regard que tu portes sur l'histoire de ton pays?
J'adore. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait une bonne partie du peuple qui ne connaît pas trop la valeur de ce qu'on a, des richesses, que l'Égypte a été le berceau des civilisations, que... Regardez, je ne trouve pas que c'est égyptien, par contre c'est patrimoine humain, et que la première lumière a eu lieu ici en Égypte. Donc ça rend cette partie-là du globe terrestre différente ou bénite, si je peux le dire. Et quand on ne se rend pas compte de cela, ça fait de la peine. Mais autrement, oui, j'adore.
Tu dis qu'il y a une partie du peuple qui ne connaît pas cette histoire, elle n'est pas enseignée dans les livres d'histoire à l'école. J'imaginais que tout le monde connaît l'histoire de son pays, notamment quand l'histoire a été façonnée par des dizaines et des centaines d'années et que le monde entier tourne son regard vers l'Égypte pour ses pyramides, pour ses tombeaux et pour toute cette richesse culturelle.
Alors, avant, peut-être il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'était enseigné légèrement. Vers la sixième, on étudiait une seule année d'histoire d'égyptologie. Et le reste, non. On étudiait d'autres histoires, des pays qui entourent. Maintenant, non. On commence depuis, ça c'est depuis 2014, donc depuis la dernière révolution. On change les, surtout la matière d'histoire, on commence à mettre plus d'égyptologie. On cherche maintenant, même c'est ce que je viens de lire récemment, après les deux parades qu'on a eues, qui avaient idée d'apprendre aux enfants les hiéroglyphes. Donc, espérant que ça vienne. Et c'est vrai, oui. Alors là, ce n'est plus uniquement la sixième, c'est selon ce que, c'est-à-dire le cycle que nous avons aux écoles. Alors là, à la première secondaire, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, ils reprennent l'égyptologie aussi.
C'est un bel espoir, ça, parce que s'ouvrir sur différentes cultures, ça permet aussi d'élargir sa vision sur le monde et son esprit, et remettre en question ses propres croyances qui, des fois, nous emmènent dans un fanatisme.
Exactement, exactement. Quand on a oublié nos origines, hein, c'est nos racines. Alors là, quand on oublie nos racines et qu'on aille étudier, qu'on va étudier une autre civilisation ou d'autres histoires, mais ce n'est pas nous là, c'est le voisin.
Donc c'est chouette, c'est un beau message pour l'Égypte, de se dire que ben, dans l'éducation, dans le système éducatif, on commence à tourner son regard vers l'histoire de ce pays.
Oui, oui. On commence à tourner l'histoire et puis ça devient beaucoup plus tolérant. Et voilà, on essaye aussi d'enseigner, d'apprendre comment accepter l'autre, comment vivre ensemble. Voilà, cette vivre ensemble, c'est bon.
Convivialité.
Merci, convivialité.
Merci Mona, merci beaucoup.
Merci, merci. Et on vous attend nombreux.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous.